Décryptage, Grégoire Morelli.
Septième jour d'affrontement entre l'Iran et Israël et toujours aucun signe de désescalade. L'État hébreu peut compter sur le soutien de son allié américain, mais l'Iran, de son côté, semble bien isolé. Alors, peut-être pas un isolement diplomatique, de nombreux pays ont condamné les frappes d'Israël qui bombardent l'Iran en dehors du cadre international. Mais l'isolement stratégique de la République islamique est bien réel après les coups durs portés à ses proxys et la fin du régime Assad en Syrie. L'Iran qui mène donc seul sa réponse militaire face à Israël. Alors y a-t-il des pays encore sur lesquels la République islamique peut compter? Élément de réponse dans ce décryptage. Et avec nous, pour en parler en studio ce soir, Kevan Gafaiti. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes enseignant à Sciences Po Paris, chercheur au centre Thucydide de l'université Panthéon-Assas et vous êtes auteur de La crise du détroit d'Ormuz de 2018, une victoire iranienne sur les États-Unis aux éditions Hartmann. Notre second invité est journaliste indépendant. Bonsoir Quentin Muller.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste du golfe arabo-persique et auteur de L'arbre et la tempête, Socotra, l'île oubliée aux éditions Marchiali. Merci d'avoir répondu à l'invitation de RFI. Ma première question, elle sera pour vous, Kevan Gafaiti. Sur quel pays l'Iran peut encore compter dans la guerre qu'il oppose à Israël?
Oui, c'est une question qui est fondamentale et vous avez parlé d'isolement stratégique. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas conjoncturel, c'est structurel. L'Iran n'a jamais eu d'alliés dans le dur. L'Iran fait pas partie d'une organisation internationale type OTAN, type UE, qui a des mécanismes juridiques en tant que tel. On parle souvent d'un axe Téhéran-Pékin-Moscou. Quelque chose qui est fondamental, c'est que dans la doctrine militaire iranienne, il n'y a pas de mention de l'axe Téhéran-Pékin-Moscou. Il n'y a pas d'alliance en tant que tel. On a pu voir des alignements à certains moments donnés dans certains théâtre d'opération typiquement en Syrie entre la Russie et l'Iran, mais même parfois en réalité quelques frictions. Donc est-ce qu'il y a un isolement stratégique? Oui, complètement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est juste qu'on le voit clairement maintenant.
Très bien. Vous évoquiez le cas de la Russie. Je me tourne vers vous maintenant, Quentin Muller. La Russie, avec laquelle l'Iran a conclu l'an dernier un accord de défense et de sécurité, pourtant le président russe a rappelé qu'une coopération militaire n'était pas prévue dans ce cadre. Interrogé sur la possibilité pour la Russie de fournir à l'Iran de nouveaux armements pour se défendre contre Israël, il a répondu que l'Iran ne l'avait pas demandé. Comment on peut qualifier cette relation russo-iranienne à la lumière de ce conflit?
Juste me permets, c'était pas l'an dernier, c'était même le mois dernier.
Le mois dernier, pardon, merci pour la correction.
C'est encore plus flagrant, désolé.
Bon, cette relation russo-iranienne, elle est, si je puis dire, en fait, un peu opportuniste. C'est-à-dire que les Russes cherchaient un allié dans la partie Moyen-Orientale face à toutes ces bases américaines qui sont dans le Golfe, qui sont en Turquie, qui sont aussi en Égypte, etc. Et ils ont trouvé un ennemi de l'Amérique qui est l'Iran. Et puis, quand le régime d'Assad a vacillé, la Russie cherchait aussi un pied à terre, si je puis dire, en plus accédant à la Méditerranée. Et donc, elle a collaboré de manière très proche avec militairement avec l'Iran pour maintenir le régime d'Assad. Donc, cette alliance, je crois pas, n'est pas, y a pas une idéologie derrière, il n'y a pas un axe très clair, mais c'est une alliance de fait, de par, si je puis dire, un écart avec le monde occidental et surtout les États-Unis. Il y a cette volonté de se démarquer, et l'Iran fait partie de cet axe-là, si je puis dire.
Très bien. Il y a un autre pays qui joue un rôle peut-être cette fois plus ambigu. Il s'agit de la Turquie. Pour comprendre un peu mieux la position du pays dans ce dossier, je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'en disait la correspondante de RFI en Turquie, Anand Loer.
Le président Recep Tayyip Erdogan, dans un communiqué, dénonce des attaques odieuses et une provocation flagrante au mépris du droit international. C'est le point important pour comprendre la réaction d'Ankara. La Turquie, qui est un voisin de l'Iran, ne souhaite pas que Téhéran obtienne l'arme atomique. Elle avait d'ailleurs accueilli le mois dernier des négociations sur le nucléaire entre l'Iran et des puissances européennes. Mais elle ne veut pas davantage d'une guerre dans sa région dont elle subirait les effets. Or, elle estime que c'est l'objectif du gouvernement de Benjamin Netanyahou, déstabiliser la région pour ses propres intérêts, pour reprendre les termes d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères.
Je continue de m'adresser à vous, Monsieur Muller. Comment vous analysez-vous donc cette posture turque au vu des propos tenus par notre correspondante ?
Bon, il y a plusieurs pistes de réflexion. La Turquie et l'Iran ont des liens économiques assez importants, d'échanges commerciaux. Et puis surtout, je pense pour Erdogan, il se pose la question de si jamais l'Iran est en chaos complet, c'est-à-dire que le guide suprême est tué et la République islamique vacille, ça voudrait dire qu'on arriverait sur un schéma potentiellement de guerre civile avec un État central qui ne gère plus l'entièreté de son territoire, et il est possible dans ces cas-là que le Kurdistan iranien, qui représente quand même une grande partie du territoire et d'une population importante, puisse, comme en Syrie, créer une espèce de d'autonomie. Et ça, Erdogan, je pense, a un peu peur de ça, et ça doit rentrer dans, en tout cas dans sa réflexion. Et puis aussi, il y a le fait que Erdogan se présente vis-à-vis de son peuple et en opposition à İmamoğlu, qui est son principal opposant, qui est en prison, comme étant un opposant à la Turquie, à Israël, chose que ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire, hein, puisque Erdogan a aussi eu des très bonnes relations à certaines périodes avec Israël. Mais là, il est en ce moment dans un schéma où il s'oppose à Netanyahou et puis à ses actions dans la région.
Et est-ce qu'on peut un peu définir la posture turque comme étant celle un peu d'équilibriste ? Parce que certes, il condamne fermement les frappes israéliennes, mais d'un autre côté, il ne tient pas, Anand Lohar nous l'expliquait, à ce que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Est-ce que c'est un point de vue éventuellement que vous partagez, une posture d'équilibriste, ou en tout cas, ménager la chèvre et le chou, si j'ose dire ?
Complètement. La politique étrangère turque, j'aimerais dire l'identité turque, c'est une identité de pont. On a un pied en Europe, un pied en Asie, donc au Moyen-Orient. On a une identité laïque, on a une identité musulmane, on a des bonnes relations avec Israël, on veut en même temps toujours soutenir la cause palestinienne en tant que telle. Et alors, sur le soutien, ou du moins la prise de position turque par rapport à ce qui se passe maintenant entre Israël et l'Iran, même si on remonte un petit peu le temps, c'était bien Erdogan qui avait décidé de rompre les relations diplomatiques, le dialogue en tant que tel, plutôt avec Israël, ça c'était plus par rapport à la Palestine. Donc cette position équilibriste, elle est difficile à maintenir, je pense, sur le long terme, en termes de cohérence. Mais oui, je pense que c'est la position turque. Et pour rebondir sur ce que disait Quentin, effectivement, il y a l'enjeu du Kurdistan, et il y a peut-être l'idée dans la tête d'Erdogan de se dire aujourd'hui l'Iran, et demain qui sera le prochain. Parce que ça, c'était le projet américain. Le projet américain, si on remonte à Bush, dans le projet américain, c'était de dire, bah, écoutez, 2003 intervention en Irak, bah, après Bagdad, ce sera Damas, ce sera Téhéran. Et donc là, peut-être il y a la question de demain, est-ce que ce sera Ankara ?
Très bien. À présent, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Non.
Dans ce cas-là, je m'attaque à l'Irak. À présent, plusieurs factions armées chiites proches de l'Iran présentes dans le pays se sont exprimées pour défendre et soutenir Téhéran, appelant à l'expulsion des forces américaines du pays, tout en affirmant vouloir éviter d'entraîner l'Irak dans la guerre. La crainte d'un embrasement régional, elle tempère les volontés d'agir de certains groupes en Irak ?
Les factions chiites irakiennes, qui sont regroupées sous l'ombrelle des Al-Jashabi, des mobilisations populaires qui avaient été créées à l'appel de Sistani pour combattre Daesh. Certaines ont des liens très très forts avec l'Iran parce qu'elles ont participé parfois à la guerre Iran-Irak combattant contre Saddam Hussein, parce que c'était des factions chiites qui étaient martyrisées par le pouvoir central de Saddam Hussein sunnite, et donc elles ont combattu main dans la main avec l'Iran contre Saddam Hussein. Donc je pense notamment à la faction Badr, qui vraiment a une histoire là-dessus. En fait, elles sont empêchées, si vous voulez, d'agir, parce que déjà, elles ont un manque de moyens. Ça reste des milices, avec des moyens de milices. Elles n'ont pas d'aviation. Elles sont éloignées d'Israël. Et puis, aujourd'hui, je pense que l'Iran est plus dans une logique d'essayer de trouver une porte de sortie, une désescalade pour se maintenir au pouvoir. Donc je ne crois pas qu'aujourd'hui Téhéran appelle ses milices à riposter, ou alors à les protéger, voilà.
Et alors, pendant de longues années, je l'évoquais dans mon avant-propos, le régime iranien pouvait compter sur le régime des Assad. Sa chute précipitée le 8 décembre 2024 a eu quelles conséquences pour l'Iran, Kevin ?
Oui, alors effectivement, on avait l'axe de la résistance, le Mehvar Emkhovemat, qui, jusqu'à décembre 2024, en fait, avait un continuum territorial et géographique. C'est-à-dire qu'on avait Téhéran, on avait Bagdad, on avait Damas, on a Beyrouth, on a ensuite la question de la Palestine. Donc, effectivement, on avait un projet politique, on avait cet axe de la résistance qui coalisait différents acteurs étatiques avec l'Iran, avec la Syrie, en frais étatiques. Et maintenant, il manque un chaînon, plutôt un maillon, je dirais, dans cette chaîne. Et donc, la chaîne est complètement disloquée. Donc, est-ce que ça a impacté l'Iran ? Évidemment, grandement, puisque maintenant, il faut le voir comment le gouvernement de HTS, de Al-Julani, n'est pas ouvert à une coopération directe, sans nécessairement rentrer dans une confrontation directe avec Téhéran. On est dans une sorte de clair-obscur.
Et justement, c'était le sujet de ma deuxième question. On sait quelles sont les relations avec les nouvelles autorités syriennes. On en a vaguement une idée, vous avez commencé à y répondre, mais peut-être un peu plus dans le détail.
Voilà, effectivement, on est vraiment dans quelque chose de clair-obscur. Les choses ne sont pas complètement fixées. Maintenant, ce qu'il faut voir est que Al-Julani opère un virage à 90 degrés, pas 180 degrés, de passer d'une alliance comme le faisait Al-Assad avec Téhéran à une opposition, une confrontation frontale. Peut-être pas jusque-là, mais il y a vraiment une volonté de faire un pas de côté franc et de plus du tout être dans cette stratégie, dans cet ensemble politico-discursif qui était donc avec comme épicentre Téhéran. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui s'inscrit quand même dans une forme de dialogue. Il ne faut pas non plus penser qu'il n'y a pas de relation officielle, mais officieusement, Téhéran discute absolument.
Et puis, il y a aussi des pays du Golfe qui entretiennent bonnes relations avec l'Iran. C'est le cas du Sultanat d'Oman ou du Qatar. Quentin Müller, quelle posture ces pays ont adoptée depuis le 13 juin dernier ?
Non, mais c'est très important de parler des pays du Golfe parce que c'est vraiment, d'un point de vue économique, c'est un poumon pour l'Iran. Et vous avez parlé d'Oman et du Qatar. Moi, je vais parler surtout des Émirats parce que Dubaï, c'est là où il y a les plus grandes transactions financières qui se font entre Téhéran et les Émirats. Il faut savoir que l'Iran représente le tiers de l'économie émiratie, les échanges avec l'Iran. Donc c'est 30% de ces échanges économiques. Donc c'est quand même relativement énorme. Il y a des familles iraniennes qui estime qu'ils sont entre 300 et 500 000 Iraniens qui vivent principalement à Dubaï. Donc c'est énorme. Et ces gens-là font du commerce avec la Chine. Donc la Chine, par exemple, affrète des marchandises qu'il souhaiterait directement vendre à l'Iran, mais ça passe par les Émirats pour contourner les sanctions. Les Émirats les récupèrent et ensuite les revendent à l'Iran. Donc il y a des échanges économiques qui sont très importants. J'avais lu un rapport qui disait que sur les 2 millions de conteneurs qui arrivaient dans le port de Jabal Ali, 1,5 million étaient destinés à l'Iran. Donc l'Iran représente une opportunité économique énorme pour les Émirats et inversement. Et même si les relations entre l'Iran et les Émirats ont toujours été un peu compliquées, parce que les Émirats, c'est plusieurs Émirats, c'est Dubaï, Abu Dhabi. Abu Dhabi est plutôt ils sont plutôt frileux sur leurs relations avec l'Iran. Dubaï, ce n'est pas le cas. Mais il y a des relations historiques et commerciales. Par rapport à Oman et au Qatar, Oman a toujours eu de très bonnes relations avec l'Iran, notamment quand il fallait s'absoudre d'une révolution communiste dans le Dhofar, c'est le Shah d'Iran qui a envoyé beaucoup de troupes pour débarrasser ces communistes. Il y a eu une bonne relation ensuite avec Khomeini. Oman, on l'a vu, a accueilli les négociations, les dernières ultimes négociations sur le nucléaire avec les Américains. Et Oman a un tropisme, si je puis dire, quand même iranien. C'est pas seulement un pays neutre. Ils ont quand même de meilleures relations avec l'Iran qu'avec leurs voisins saoudiens ou émiratis, faut le dire. Et puis le Qatar, petit pays qui partage quand même des champs gaziers très importants avec l'Iran, où ça se passe plutôt bien au niveau des frontières dans la mer, dans le golfe arabo-persique, eh bien, ils ont été soutenus par qui ? Quand il y a eu un embargo par ces autres pays alliés, eh bien, ils ont été soutenus par la Turquie et par l'Iran. Et là, il y a eu donc en 2017, les échanges commerciaux ont bondi de 117% entre l'Iran et le Qatar. Et il y a des relations qui sont plutôt bonnes entre ces deux pays. Et il ne faut pas oublier l'Arabie Saoudite, qui était l'ennemi en fait juré depuis que un clair, enfin un religieux chiite saoudien et a été condamné à mort et exécuté. Donc ça, c'était dans la continuité des printemps arabes. Il y a eu une rupture des liens diplomatiques entre les deux pays, mais qui a été reprise depuis 2022 sous l'égide de la Chine, qui a conclu un accord quand même exceptionnel de paix. Et heureusement, si je puis dire, parce qu'après le 7 octobre, si on n'avait pas eu cet accord de paix, je pense que la situation se serait encore plus embrasée. Et donc, les deux pays, aujourd'hui, sont vraiment en bon terme, si je puis dire, au point que les Saoudiens ont fustigé les attaques israéliennes en disant « vous attaquez un pays frère ». Le mot a été employé, un pays frère. Donc, même si économiquement, il n'y a pas eu une reprise entre les deux pays, et puis surtout, l'Arabie Saoudite doit respecter les sanctions, l'embargo américain sur les échanges commerciaux, les pays du Golfe sont, dans leur grande majorité, à part le Bahreïn, assez favorables, voire très favorables à l'Iran.
Et vous évoquiez justement la Chine aussi, elle condamne ces frappes israéliennes, mais elle reste prudente. Là encore, je vous propose d'écouter un extrait de ce qu'en disait la correspondante de RFI en Chine, Cléa Broadhurst.
La Chine affiche une position claire, elle condamne fermement les frappes israéliennes qu'elle considère comme une violation de la souveraineté iranienne et du droit international. Ce soutien s'inscrit dans une relation stratégique de long terme, marquée par des liens économiques, énergétiques et diplomatiques étroits. Dans le même temps, la Chine cherche à se positionner comme médiateur. Le ministre chinois des Affaires étrangères a contacté ses homologues iraniens et israéliens, se disant prêt à jouer un rôle constructif. Pékin veut apparaître comme une alternative crédible aux puissances occidentales dans la résolution des crises internationales. Mais la Chine avance avec prudence. Elle critique Israël sans pour autant rompre ses liens économiques ni provoquer Washington.
Kevin Gafaiti, alors vous, comment vous la définiriez cette posture chinoise?
Oui, alors effectivement, voilà, on est quand même assez surpris, mais la Chine, d'un point de vue juridique, a complètement raison. On a eu une attaque israélienne qui est en dehors du droit international, puisque hors légitime défense, hors autorisation du Conseil de sécurité, il faut le dire, les guerres préventives n'étant pas autorisées par le droit international, et la Chine le rappelle. Donc finalement, la Chine s'inscrit vraiment dans une lignée qui a toujours été de faire prévaloir la souveraineté territoriale des États et la non-immixtion dans les affaires intérieures des États. Et donc, en fait, là, il y a une continuité avec, évidemment, une proximité économique et politique par rapport à l'Iran. Et je pense qu'il y a aussi une mention qui est intéressante. On parlait un peu plus tôt des potentiels alliés stratégiques. Alors là, il y a un peu, encore une fois, une zone de flou, puisqu'il me semble, alors c'était ou hier matin ou avant-hier matin, maintenant j'ai un doute, mais sur les 48 dernières heures, il y a eu deux avions cargo chinois qui sont arrivés en Iran en apportant du matériel. Et alors, si vous me demandez quel est ce matériel, personne ne le sait. Parce qu'en fait, les avions chinois sont arrivés, sans avoir leur système de radar ouvert. La cargaison en tant que telle n'a pas été dévoilée. Donc, est-ce que c'est un matériel militaire, non militaire? La question reste en suspens, mais ce qui est clair, c'est qu'il y a effectivement des échanges de biens matériels entre ces deux États. Donc, disons, soutien diplomatique, politique. Il y a une forte relation économique et maintenant un soutien matériel en tant que tel.
Donc ça rompt un petit peu quand même l'idée qu'on évoquait au début de cet entretien en disant qu'il y avait un isolement stratégique. Il n'est pas tout à fait complet, cet isolement stratégique.
C'est ce que je vous ai dit. Il n'y a pas d'alliance dans le dur. Vraiment, il ne faut pas du tout voir de manière crédible de potentiels soldats russes, des spetsnaz qui vont aller défendre Téhéran. Vous n'allez pas avoir, à l'inverse, des postes d'Olon aller en mer de Chine pour zoner autour de Taïwan. Ce n'est pas du tout ce cadre-là. Mais ça n'échange pas des échanges de bons procédés.
Très bien. Et peut-être, il nous reste peu de temps, mais une dernière question à laquelle je souhaiterais que vous répondiez tous les deux, peut-être vous d'abord, Quentin Müller. Est-ce que cet isolement relatif, on l'a bien compris, de l'Iran, il pourrait avoir aussi également comme conséquence, comme ça avait été un peu le cas, lors de la guerre contre l'Irak en 1980-88, avoir comme conséquence un regain du sentiment national iranien?
Oui, c'est clair. Pour avoir interviewé avec un confrère qui est en Iran des réservistes iraniens, il faut rappeler qu'il y a 2 ans de service militaire obligatoire en Iran, donc ce sont des jeunes qui sont pas du tout pro-régime, hein, loin de là, même l'inverse. Pour avoir discuté avec un certain nombre d'entre eux, ils me disent que ils sont pas prêts à mourir pour les religieux, pour les mollahs, ni pour les pasdaran, mais ils sont prêts à se sacrifier en cas d'invasion, si je puis dire, terrestre ou pas d'invasion terrestre, mais d'intervention au sol d'une puissance étrangère. Parce que ils veulent défendre quoi ? Ils veulent défendre la souveraineté de l'Iran et la population locale, les Iraniens.
Très bien. Kevin Gafaiti, brièvement également.
Voilà, brièvement, c'est quelque chose qui est fondamental. Hier, dans un discours